1er août, soirée pop avec Jonathan Roy et Ex-Ambassadors. Samedi le 2, soirée rock avec Québec Redneck et Three Doors Down. Le dimanche 3 août, soirée New Country avec J.D. Golson et Matt Lang. Les grandes fêtes TELUS, une collaboration Construction Technipro, Desjardins, Gouvernement du Québec, Coors Light et TELUS.
L'abus de plaisir n'est pas dangereux pour la santé. Découvrez tous nos produits érotiques pour couples dédiés aux amoureux et à la sensualité à deux. Huile, jouets, légerie et plus. Partagez le plaisir. Sensationplus.com. Livraison rapide et discrète.
Planifiez votre aménagement paysager avec Paysagiste Rimouski. L'équipe qualifiée et passionnée de Paysagiste Rimouski vous offre de la création d'espaces extérieurs haut de gamme pour l'aménagement d'un patio, d'une terrasse, d'un spa, d'une piscine pour la pose de pavés unis ou pour la restauration complète de votre aménagement paysager. Paysagiste Rimouski est là avec ses services professionnels et personnalisés depuis plus de 20 ans. 418-732-2624. Paysagiste Rimouski, l'art de créer à votre mesure.
Au prochain tirage du loto 649, le gros lot de la boule d'or sera 58 millions. Puis en jouant en ligne, vous pourriez être à un doigt de mettre la main dessus. Bon, mettons 2-3. Ça dépend de comment vous pitonnez.
Vendredi 16 et samedi 17 mai 20h, venez vivre la musique des années 70 à aujourd'hui avec le groupe Rimouski Soul Project. L'événement mémorable Retrouvailles au sous-sol de l'église Saint-Robert de Rimouski. Ces soirées sont présentées par les électriciens Lepage et Simard, le centre financier de Rimouski et la radio FM 93. Le coût d'admission est de 20$ et les billets sont en vente chez Marché Claudin Malenfant, Home Hardware et Audition Musique.
L'émission de Jean Brisson, une présentation d'Alarme 911 Rimouski. Offrez-vous la tranquillité d'esprit avec un bouton médical d'Alarme 911 Rimouski. Les secours dont vous avez besoin au bout de votre doigt au 418-722-9111.
Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?
L'animateur le plus pépé de Québec à Gaspé, à CFX 93. Vous écoutez Jean Brisson.
Eh bien, on appelle ça dans le métier vite sur ses patins, parce que lorsque notre ami Louis Arsenault nous a dit par téléphone qu'il allait jouer de la trompette dimanche à la cathédrale, un spectacle à la cathédrale, alors Madame Claire a dit, on va appeler tout de suite notre ami Jacques Landry, n'est-ce pas, parce que notre ami Jacques Landry, c'est l'organisateur, c'est le réalisateur, c'est le metteur en onde, metteur enfin des images, je sais pas, mais on vient de le rejoindre. Il est en ligne, monsieur Landry. Jacques, bonjour.
Bonjour, monsieur Brisson, ça va bien?
Ben oui, monsieur Jacques, comment la santé, ça va mieux, quoi?
Oui, il y a eu des hauts et des bas, là, l'influenza, ou je sais pas comment on appelle cette grippe-là, qui est assez tenace, mais je pense que si la tendance se maintient, je devrais être bon encore pour un bout de temps.
Bon, ben bravo, on vous le souhaite en tout cas. Hey, Jacques, gros spectacle à la cathédrale demain?
Ben oui, c'est le dimanche. En avant-midi, on a entendu tout à l'heure M. Louis Arsenault, qui participe souvent à la célébration à 11h de la messe, là, avec sa trompette. C'est vraiment très, très bien. Des jeunes aussi, entre autres du conservatoire, qui viennent chanter. Il y en a qui touchent de l'orgue. Mais en plus, demain après-midi, à 16h ainsi qu'à 19h30, il y a un spectacle donné par l'orchestre baroque du conservatoire de Rimouski. Ça regroupe une douzaine, 12 à 15 participants. Il y a des timbales, il y a un clavecin, il y a des trompettes. C'est organisé ici avec l'ensemble de cuivre et orgue de la classe d'Alexis Bach et Mme April, José April, que vous connaissez, qui s'implique énormément au niveau de nos jeunes artistes là, au conservatoire.
Est-ce que il faut payer quoi? Une entrée, quoi? Est-ce que c'est comment?
Oui, ça fonctionne, c'est quand même assez simple. C'est soit en vente chez Spectre Rimouski, ou ça peut être vente directement à la porte. Sinon, les coûts sont quand même raisonnables. C'est 20$ pour les étudiants, 25$ pour les adultes. Et aussi, il y a des gens qui peuvent donner jusqu'à 100$, ça peut être un VIP, qui leur donnera un reçu de charité, vu qu'on est un organisme reconnu de bienfaisance. Il faut dire aussi, Jean, c'est une des seules activités qu'on fait durant l'année, donc ça nous a permis, entre autres, l'année passée, cette année, de réparer l'orgue, de l'ajuster, de faire des achats pour, comme à l'extérieur, on a mis une sorte de c'est Monsieur Eppel qui a mis une sorte de tableau qui permet d'identifier les messes et les différentes activités dans la cathédrale. Donc, on invite tous les gens à venir nous voir. Donc, c'est à 16h demain et à 19h30 demain soir.
Jacques, vous n'êtes pas marc Guillet, mais quelles sont vos fonctions là à la cathédrale? Vous êtes du côté producteur, je pense, hein?
Oui, c'est sûr qu'on diffuse sur les écrans toutes les cérémonies qui sont présentes à la cathédrale. Donc, c'est quand même assez bien défini entre les deux organisations. La Fabrique a un mandat vraiment au niveau de remettre en état la cathédrale, notre patrimoine que tu connais bien. Et moi, j'essaie de faire des activités à l'intérieur qui ne touchent pas nécessairement des cérémonies religieuses, mais qui peuvent se comptabiliser, voir par rapport à des activités de théâtre, de chansons, de concerts et autres. Et c'est une des activités qu'on présente demain.
Jacques, est-ce que ça veut dire que le concert de demain là sera sur les écrans, quoi, de télévision?
Ouais, ils sont sur les écrans à l'intérieur de la cathédrale, parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui normalement vient. Oui. Donc,
mais dans les foyers, est-ce qu'on peut le capter ça également?
Non, parce que ça demanderait des autorisations et des droits, parce que les jeunes artistes qui sont là, c'est quand même des artistes quasi professionnels. Il y a aussi des professionnels qui se joignent à ce concert-là, entre autres, il y a Mme Fortin qui est là, il y a M. Laforte Bouchard qui est là. Donc, il y a aussi des professeurs qui se mettent à l'intérieur de cette démonstration-là, de cette présentation-là. Donc, ça aurait été compliqué de commencer à diffuser ça.
Oui.
Puis, on veut éventuellement, par contre, ce qui va arriver, ça c'est un scoop pour toi, là, tout ce qui va se passer à la cathédrale dans les prochains mois, là, si on est après planifié des choses, cet effet-là, ça va être diffusé. De sorte que si les gens ne peuvent pas se déplacer pour la messe, ou pour d'autres activités, ben ils vont être en mesure de synchroniser directement sur Internet les activités qui vont se passer à la cathédrale. C'est vraiment quelque chose de bien. Là.
Alors, ça pourrait commencer quand? Tu répètes quand?
C'est en planification. Tu sais, aujourd'hui, Jean, tu dois être certainement au courant. Il n'y a jamais rien de simple.
C'est ça.
Il y a toujours des choses compliquées. Il faut toujours demander certaines permissions, autorisations. Puis, je sais pas, notre société étant ce qu'elle est, c'est ça, c'est pas simple. Donc, il faut avoir des permissions d'après tout le monde.
Jacques, oui. Je vous donne la permission tout de suite là d'inviter à nouveau là tous les gens à assister au spectacle de demain.
Vous êtes super gentil. D'ailleurs, je voudrais souligner votre participation et votre aide. À toutes les fois, Jean, qu'on a demandé ton support, on n'a jamais eu aucune difficulté à rentrer chez toi. Donc, ça, je tiens à souligner au niveau de la population. C'est un droit, je pense, qui est sensible relativement à toutes ces activités-là. Et en terminant, j'invite la population, c'est demain après-midi à 16h. Donc, c'est la cathédrale de Rimouski, c'est le concert de l'orchestre baroque du conservatoire de Rimouski, c'est un concert bénéfice. Et aussi demain soir à 19h30, c'est le même concert qui est présenté, donc toujours par l'orchestre baroque. Donc, tous les gens, ils se présentent directement à l'arrière ou à l'avant, dépendamment, entre du côté du fleuve. Les portes vont être ouvertes et les gens vont être capables de payer les coûts des billets. Donc, c'est 20$ pour les étudiants, 25$ pour les adultes et 100$ pour ceux qui veulent participer plus activement à toutes les ressources financières que nous avons besoin pour organiser des événements.
Monsieur Jacques Dandry,
c'est une invitation à tout le monde.
Merci infiniment et bon succès. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Messieurs, dames, j'ai un sujet ce matin devant moi là qui, comme dirait ma mère, dépasse les bornes. On a demandé à Monsieur Trump, au président américain, s'il serait intéressé à devenir le prochain pape. Il a ajouté humblement pour une fois, je ne sais pas. I don't know. J'ai pas de préférence. Mais je dois dire que nous avons un candidat, un cardinal Timothy Dolan. Il vient de New York. Il est très bon. Puis on va voir ce qui va se passer. On se rappelle que le pape François est décédé le 21 avril, messieurs dames. Ah, il y avait 400 000 personnes qui ont assisté aux funérailles. Mais ce matin, ça m'a touché. J'écoutais là, à Rome, je suis un auditeur assidu de Radio Vatican. Puis il y a le cardinal Antonelli Dubelli, qui a fait un reportage concernant les dernières minutes du Saint-Père. Alors, j'ai enregistré ça, puis je vous le présente en exclusivité.
Par un matin gris à Rome, un silence particulier flottait dans l'air. Dans une pièce isolée, sous des draps légers et les mains croisées, reposait l'homme dont la voix avait jadis guidé des millions. À présent, il demeurait silencieux. Le pape ne parlait presque plus, les yeux clos, non par absence, mais en contemplation. Les quelques personnes présentes, personnel médical et membres du clergé, restaient figés dans un respect profond. Chaque mouvement était mesuré, mais portait le poids de l'éternité. Entre deux prières, le Saint-Père ouvrit les yeux et regarda une sœur qui lui était proche. D'une voix fragile, empreinte de sacré, il murmura « Amenez Balthazar !» La confusion se répandit. « Balthazar ?» demanda doucement un cardinal. Mais le regard du pape ne laissait place à aucun doute. Balthazar était un chien, un fidèle compagnon, de taille moyenne, au pelage blanc, doux. Depuis le début de la maladie, il ne vivait plus au Vatican, mais auprès de sœur Domenica, à Castel Gandolfo. Elle le nourrissait, lui parlait, le caressait, mais le chien n'était plus le même. Il ne jouait plus, comme s'il ressentait une absence qu'il ne savait nommer. Son regard se perdait souvent dans le vide, comme si une part de sa vitalité lui avait été enlevée. Pour comprendre le souhait du pape, il fallait remonter loin, jusqu'en Argentine, bien avant les habits blancs, avant la scène vaticane. Jorge Mario était alors un garçon éveillé, au regard curieux, fils de parents modestes. Sa mère lui avait enseigné « Chaque créature porte le souffle de Dieu ». Jorge prit cela à cœur, aimant les animaux, surtout les chiens. Et lorsqu'il devint pape et prit le nom de François, en hommage au saint qui aimait toutes les créatures, nul ne fut surpris. Pas même lorsque, un jour, un chien au pelage clair apparut dans les jardins du Vatican et s'allongea silencieusement à ses pieds. François avait simplement souri, s'était agenouillé avec effort et avait dit « Balthazar ». Dès lors, le chien fit partie de sa vie, de ses rituels, de ses prières silencieuses. Balthazar était plus qu'un animal, il était une âme sœur. La recherche fut immédiate. Une voiture fut envoyée à Castel Gandolfo. Au Vatican, tout se préparait pour son arrivée. Lorsque le véhicule arriva, Balthazar en descendit sans hésitation. Il n'aboya pas, ne tira pas sur sa laisse. Devant la porte de la chambre pontificale, il s'arrêta, non par crainte, mais comme s'il demandait la permission. La porte s'ouvrit lentement. À l'intérieur, tout était calme. Le pape reposait, les yeux clos, le visage paisible. Balthazar entra. Aucun bruit, aucun aboiement, seulement une présence. Il se plaça près du lit, s'assit et ne bougea plus. Les minutes passèrent. Balthazar resta, tel un gardien. Puis le pape bougea légèrement les doigts. Balthazar se coucha, sa truffe tout près de la main du pape. Il n'y eut pas de contact, juste une proximité, un geste de profonde connexion. Sœur Domenica quitta la pièce. L'atmosphère était imprégnée de quelque chose d'invisible, une sérénité solennelle, comme un voile posé sur toute chose. Dans la pièce, seul le souffle discret était audible. Balthazar reposait toujours à côté du lit du pape. Ses yeux étaient ouverts, mais son regard était calme et immobile, comme s'il percevait au-delà du visible. Personne ne le dérangeait. Le secrétaire particulier du pape recevait encore des messages venus du monde entier, des nouvelles de fidèles, de chefs religieux, de responsables politiques. Tous demandaient des nouvelles de l'état du Saint-Père. Mais dans la chambre, un silence régnait, plus éloquent que les mots. Les infirmières se relayaient, entraient et sortaient sur la pointe des pieds, leurs gestes mesurés, presque rituels. Le pape respirait calmement, presque imperceptiblement. Parfois un soupir effleurait ses lèvres, un signe de souvenir ou un dernier adieu à la vie. Nul ne pouvait le dire. C'était un moment entre deux mondes, entre le maintenant et l'après, entre l'homme et l'éternité. Et Balthazar ne le quittait pas. C'était comme si le chien avait compris que sa place était exactement ici, dans cet entre-deux, entre vie et lumière. Et puis, tout doucement, Balthazar bougea. Il se leva, s'approcha du lit. Sa truffe se posa sur la main de celui-ci. Doucement, tendrement, c'était un moment de silence pur. Balthazar reposait immobile à côté du lit papal, sa truffe encore proche de cette main qui avait tant de fois béni les foules. Balthazar leva doucement la tête. Son regard parcourut le visage du pape. Il était paisible. Une des sœurs s'approcha du lit. Ses pas étaient à peine perceptibles. Elle tendit la main. Tout toucha le pouls du pape et s'arrêta. Ses yeux se remplirent de larmes. Puis elle hocha